À la une ce midi, on ira au tribunal administratif qui doit répondre à cette question. Faut-il ou non couler le Taporo en mer? On parlera aussi des professionnels de la vape qui attaquent le texte anti-tabac. Et on terminera avec cet événement ce vendredi spécial Vainé. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabrio. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Cette question d'abord au tribunal administratif, le Taporo sera-t-il coulé en mer ou pas?
On parle du Taporo 7 et on en parle depuis déjà longtemps. Rappelez-vous, la goélette vieille de 45 ans avait presque coulé à quai. En mars 2022, un incendie avait fini de le mettre hors d'usage. Depuis, le navire appartenant à la compagnie française maritime de Tahiti est tenu à flot par des pompages réguliers. Mais il est bloqué à quai à Motuhuta et il commence à gêner. L'armateur doit déjà plusieurs dizaines de millions au port autonome en frais d'amarrage et de barrage anti-pollution. L'établissement lui a déjà demandé de partir. L'éviction a d'ailleurs été validée en référé en juin par la justice. Mais pour aller où, les propriétaires du Taporo ne voient qu'une solution, Charlie René.
Et cette solution, c'est donc l'immersion. L'armateur pointe que les infrastructures ne sont toujours pas adaptées en Polynésie pour démanteler un navire d'une telle taille et que le transport vers des sites bien encadrés aux États-Unis ou en Europe serait trop risqué vu l'état du Taporo 7. La compagnie avait donc déjà demandé en 2023 à pouvoir couler le bateau dans les eaux territoriales. La DIREN avait émis un avis négatif, peut-être à cause d'un mauvais souvenir. La dernière immersion autorisée par le pays, c'est celle du Kuraora 2, s'aborder alors qu'il avait dans ses cales en toute égalité, illégalité, quelques 200 tonnes de déchets métalliques et des dizaines de bonbonnes contenant ou ayant contenu un pesticide très toxique. C'était en 2019. L'instruction de cette affaire est toujours en cours côté pénal et les immersions prévues par la loi n'ont jamais été relancées depuis. Les propriétaires du Taporo estiment en faire les frais aujourd'hui et ont contesté une décision finale de rejet signée par le ministre de l'Environnement en août dernier. Sauf que ils l'ont contesté un peu trop tard, d'après le rapporteur public. Leur demande pourrait donc être rejetée le 16 septembre.
Voilà, l'avocat de la compagnie française maritime de Tahiti conteste bien sûr cette analyse. Il explique que le dossier auprès du pays est évolutif, qu'on a demandé plusieurs fois à l'armateur des actions complémentaires, notamment de dépolluer le bateau en amiante, ce qui aurait été fait. Mais la compagnie a, quoi qu'il arrive, lancé un deuxième recours orienté vers le Haut Commissariat et celui-ci a plus de chances d'aboutir, Charlie.
Et oui, car en matière maritime et d'immersion en particulier, il y a une frontière de compétences qui est placée à 12 000 au large des côtes. Alors d'un côté, il y a les eaux territoriales dont on parlait où le pays est responsable. De l'autre, il y a la haute mer dans tout le reste de la ZEE et c'est l'État qui est aux commandes. Une demande avait donc été formulée auprès du Haut Commissariat pour y couler le bateau, mais là aussi la réponse avait été négative l'année dernière. Le service des affaires maritimes de l'État avait jugé que le dossier était incomplet, laconique même, que l'armateur n'établissait pas qu'il n'avait pas d'autre solution que cette immersion, qu'il n'établissait pas non plus que le Taporo 7 avait été correctement dépollué. Mais plutôt que de rejeter la requête, l'administration aurait pu demander des compléments de pièces à son auteur. Elle aurait même dû, c'est ce que a dit le rapporteur public ce matin, et il a proposé au juge d'annuler la décision du Haut Commissariat. Alors ça ne voudrait pas dire que le Taporo pourrait être sabordé au large, mais seulement que le dossier, une fois complété, pourrait être réévalué. Là aussi, une décision est attendue par le tribunal administratif le 16 septembre, Lucie.
Voilà, merci beaucoup Charlie. Et en attendant, le Taporo 7 est toujours à quai à Motuhuta. A noter que si son immersion est refusée, l'espoir pourrait venir du développement de solutions locales. Une société cherche depuis plusieurs mois à créer un site de démantèlement de bateaux à Peihoro, près du CET. On vous en reparlera bientôt de ce projet que le pays avait affirmé soutenir.
Les commerçants de vape partent au combat.
Et les professionnels du secteur ont officiellement annoncé ce matin qu'ils allaient faire un recours contre l'interdiction de la vape. Un amendement adopté par l'Assemblée qui a durci encore plus les restrictions en interdisant complètement l'importation de la vape à partir de juillet 2026 et sa vente un an plus tard. On écoute les explications du cofondateur de Vapix, Toréa Gilles.
Nous travaillons déjà en collaboration avec une juriste de Paris. Nous attendons uniquement la publication au journal officiel afin de pouvoir travailler sur l'amendement qui a été pendu vendredi dernier. Donc notre juriste est en collaboration avec des avocats de Paris afin de pouvoir contester directement au Conseil d'État.
Pour ces professionnels qui avaient négocié et travaillé avec les services de la santé sur les restrictions et la réglementation, la surprise a été grande vendredi. Quand les élus de l'Assemblée ont voté cette interdiction pure et simple de la vape, ils se sont dit choqués et déçus et pas question de ne rien faire.
Il pourrait là aussi y avoir un recours. Le texte sur le RNS a été adopté par la majorité hier.
Et oui, ça y est, on en a beaucoup parlé de ce texte qui modifie donc les conditions d'affiliation au RNS. On y trouve notamment la fin de la primauté du RGS pour ceux qui ont une double activité salariale et patentée. Les cotisations taxation aussi sur les revenus immobiliers. Cette nouvelle loi du pays entrera en vigueur le lendemain de sa promulgation dans le mois qui vient et le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, est satisfait.
Je pense qu'on peut avoir un texte qui a été bien construit parce qu'on a eu 7 mois de concertation depuis le mois de janvier, depuis la sortie du rapport du CESEC qui nous demandait de concerter plus encore les patrons. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même 9 amendements qui viennent de propositions qui ont été faites par le patronat, qui ont été repris majoritairement.
Pour Moëté Iberverson, il n'était pas question que ce texte ne passe pas, surtout que côté démographique, il y a une certaine urgence.
C'est aussi le moyen de préparer l'avenir. Vous savez qu'on a cette inversion du ratio de cotisants versus retraités. On a une bombe à retardement qui s'appelle le Money Rule. Aujourd'hui, si on continue de laisser tout le monde dans cette auberge espagnole qui est le RSPF, demain, on ne peut pas garantir qu'on pourra assurer le Money Rule. Donc il faut aller vers cette nouvelle vision du système où on privilégie l'activité.
Et le président du pays que vous venez d'entendre s'est montré aussi particulièrement agacé des critiques sur la difficulté supposée des démarches.
On va nous servir encore longtemps cette soupe du petit étoinoui incapable de remplir des papiers. Non, il n'y a pas de petit étoinoui, il y a des Polynésiens. Et ils sont de plus en plus capables de faire leur formalité administrative comme tout le monde. Notre rôle à nous, gouvernement, tous les satellites du pays, c'est de nous assurer qu'on ne vient pas compliquer inutilement les démarches qui existent déjà. Ils font déjà des tas de démarches et dans certains cas, avec le texte qu'on prend actuellement, on va simplifier ces démarches.
Et côté opposition, le Tapura et Aheria Polinetia pensent déjà au recours. Effectivement, comme tu le disais Damien, ils ont l'intention de le déposer. Ils estiment que rien ne justifie que le gouvernement, je cite, « fasse les poches de ceux qui paient déjà beaucoup d'impôts, surtout que les finances du pays sont bonnes ». On écoute Nui Holoré.
Les juristes vont travailler sur tout ça, mais c'est sur le fond que ce texte est mauvais. Sans parler d'arguties juridiques, ce texte est mauvais parce qu'il va exactement dans le sens opposé à la responsabilité, la sortie de l'assistanat. On est exactement dans l'opposé de tout ça. Le gouvernement souhaite faire les poches, en fait, de ceux qui payent déjà beaucoup d'impôts en se disant ça va alimenter l'équilibre de la PSG alors qu'elle n'est pas en situation difficile et que le pays, comme je l'ai dit dans mon intervention, n'a jamais été aussi riche de toute son histoire.
Et Tepo Araori Teritei du Tapura s'interroge aussi sur la notion d'équité avancée par le gouvernement. Elle dit que certains vont payer en plus sans avoir de droits supplémentaires et que d'autres vont avoir des droits sans mettre la main à la poche puisque c'est le pays qui paiera. Et surtout, elle voit dans ces nouvelles conditions d'affiliation à RNS un frein à l'activité.
Alors oui, on est sur la solidarité, mais là, ça commence à devenir une pression de plus en plus importante. On appelle ça une pression fiscale ou on appelle ça une pression de cotisation. Ça reste une pression qui va faire que ça va développer le travail au noir, ça va développer le manque d'investissement et d'entrepreneuriat. Enfin, il y a plein de choses qui vont être freinées.
Ils vont donc déposer un recours qui devrait s'attaquer à l'article 1er de la loi qui fait peser un risque sur le budget du pays selon l'opposition.
Ce serait effectivement l'article 1er où le pays s'oblige finalement à garantir l'équilibre du RNS, ce qui veut dire que le pays doit combler un déficit s'il y a un déficit, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de durée de temps. Donc on engage les finances du pays pour plusieurs années sur des montants inconnus, alors que les sommes qui sont dédiées à telle ou telle dépense, elles doivent être identifiées annuellement. Donc là, c'est comme si on a fait signer un chèque en blanc au représentant de l'Assemblée, alors que nous-mêmes n'avons pas le droit de signer ce chèque en blanc.
Voilà, la loi du pays a donc été adoptée par la majorité hier et la session extraordinaire à l'Assemblée n'est pas encore finie. Le texte sur les allocations familiales et celui sur les cantines scolaires doivent être étudiés jeudi. Ce devrait être le dernier épisode de cette session.
Molly Picklum et Yago Dora sont les champions du monde de surf 2025.
Ils ont été couronnés lors de la finale à Fidji sur le spot de Cloud Break. Ça s'est passé hier, enfin dans la nuit, heure de Tahiti. Molly Picklum et Yago Dora étaient déjà en tête du championnat du monde de surf. L'Australienne avait d'ailleurs remporté la Tahiti Pro au mois d'août dernier. Mais pour la finale de la saison, les cartes sont rebattues entre les 5 premiers du classement féminin et masculin. Tous ont leur chance de remporter le titre. Mais finalement, ce sont bien les premiers du classement de la saison qui conservent leur place et remportent le titre de champion du monde. La prochaine saison du CT de la WSL ne commencera qu'en avril 2026 avec de nouvelles règles. On sait déjà que Vahine Firo fera partie du tour pour la saison 2026 et il faudra attendre la fin des Challenger Series pour savoir si elle sera rejointe par Tia Zebrowski, actuellement très bien classée, car elle est la première DCS, ou Kiara Gold aussi, pour qui ce sera peut-être plus difficile. Elle pointe à la 24e place et chez les hommes, Kaoli Vast est aujourd'hui 12e 10e, à quelques places donc de la qualification pour le CT.
Et on termine avec cet événement prévu vendredi.
10e édition de Vahiné, tu as des talents, organisée par l'Union des femmes francophones d'Océanie. Une cinquantaine d'exposantes sont attendues et l'UFO espère avoir beaucoup de public féminin, notamment pour ses ateliers dédiés à celles qui veulent monter leur propre activité. Car c'est tout l'objectif de cette journée, faire vivre le droit à l'autonomie économique et à l'épanouissement créatif des femmes. Pour Armelle Merceron, il faut continuer à les encourager.
Un mot que je retiens et que j'évoque souvent, il faut oser. Et nous, on les aide à oser. Il faut savoir que même si on a des droits, dans notre société et dans un certain nombre de familles, on limite les femmes à un rôle d'être la maman, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la maison, qui assure l'éducation en général. Et quelquefois, on les cantonne là. Or, en réalité, et leurs droits et leurs motivations font qu'elles ont envie aussi de participer un peu plus. Il y a de plus en plus de femmes en Polynésie qui prennent des responsabilités.
Et il s'agit donc de les accompagner pour trouver l'autonomie économique pour ensuite mieux faire valoir leurs droits. Avec Vahiné, tu as des talents. L'UFO permet aussi des rencontres et finalement la constitution d'un réseau. Ça se passera donc dans les jardins de l'Assemblée. C'est ouvert à tous, même aux hommes. C'est vendredi de 8h à 16h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour le journal. Maintenant, c'est la météo sur Radio.